Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous, bienvenue dans un nouveau Flash Résultat. On va revenir sur les résultats du week-end des équipes charentaises et puis on fera en fin de Flash un focus sur les 24 heures du Mans moto avec trois Charentais engagés, dont notamment Greg Black qui part à la reconquête de son titre de champion du monde EWC. On va commencer par le football et la CFC qui reprenait le chemin des terrains avec un déplacement à Nantes pour affronter la réserve du FC Nantes. Un match important pour Angoulême du fait qu'ils avaient perdu il y a deux semaines contre Bergerac, donc il fallait relancer la machine le plus rapidement possible. Et les hommes de David Guiguel l'ont emporté 2-0, deux buts marqués par Koulibaly en première mi-temps et par Thierry Lemaitre en deuxième mi-temps, 2-0. Une belle victoire pour les Angoumoisins face à des Nantais qui se sont montrés dangereux, notamment en seconde période lorsque la CFC menait 1-0. Mais le centre tir de Thierry Lemaitre à un gros quart d'heure de la fin a permis aux Angoumoisins de l'emporter. 3 points qui font du bien dans cette poule D hyper homogène, hyper serrée. Et surtout Angoulême qui retrouve le chemin de la victoire, donc après le nul contre Angers et la défaite contre Bergerac. Je vais donner les autres scores de cette poule de National 2 avec le match nul entre Bourges et les Herbiers de partout. Victoire d'Angers à Lorient 1-0, victoire de Romorantin contre Vierzon 2-0, victoire donc de la CFC à Nantes 2-0, match nul entre Trélissac et Moulins 1-1, match nul entre Saumur et Gaulle 0-0, Chamalières s'impose contre Bergerac 5-2, et enfin Andrézieux bat le Stade Bordelais 2-0. Au classement, les Herbiers, premier avec 43 points, deuxième goal 41 points, troisième Bergerac 41 points. La CFC, grâce à ses 3 points, remonte à la quatrième place avec 36 points. Prochain match pour les Angoumoisins, dès vendredi soir au Stade Lebon à 20h. La CFC qui recevra Lorient, une réserve de Lorient qui était à la trêve dans le top 5. Ils étaient 5e et puis une série de 8 ou 9 matchs consécutifs sans victoire les plonge désormais à la 12e place, donc c'est peut-être le bon moment pour la CFC de prendre cette équipe lorientaise, sachant qu'une victoire d'Angoulême sur ce match amènerait donc la CFC à 39 points, et on peut considérer qu'avec 39 points, le maintien serait tout poche. Pas de football régional ce week-end, hein, on retrouvera nos équipes du niveau ligue le week-end prochain, avec d'ailleurs un alléchant Cognac-Angoulême, un derby charentais de Régional 1. On va tout de suite donc passer à la D1 avec quelques matchs de D1. Il y a eu deux reports, Leroy, La Couronne et Brie contre les Portugais. Dans les autres résultats, Moutier et Saint-Michel, donc c'est Moutier qui gagne 3-1. Champigny, les sacs 3-3. Victoire de Roulet 4-2 contre Merpin. Et match nul 0-0 entre l'Alliance 3B et Basso en tête du classement. Champigny avec 37 points. Deuxième, Saint-Michel 36 points. Et le troisième, Basso avec 34 points, les sacs étant de l'embuscade à la quatrième place avec 31 points. En deuxième division, poule A, victoire de Saint-Aïex à La Roche-Rivière 2-1, victoire de Montbron à Verdi 6-2, victoire de Sireuil à Chasseneuil 2-1, victoire de Aigre contre Bel Air 3-0, match nul entre Mornac et Ruffec 1-1, et victoire de Mansle 4-1 contre la réserve de Charente-Limousine. Au classement, Sireuil fait la bonne opération du week-end puisque les hommes de Bilal Arfaoui et de David Alcouna comptent 8 points d'avance sur Chasseneuil, 8 points à 4 journées de la fin. Donc, Sireuil est tout proche de la montée. En poule B, Ruel s'impose contre Châteauneuf 5-0, victoire de Jarnac à Nersac 3-2, victoire de Grande-Champagne contre Montmoreau 2-0, victoire de Saint-Brice contre Chazelle 4-2, victoire de Linard contre Champigny 7-1 et victoire de Saint-Séverin à Sud-Charente 3-0. Au classement, Linard est en tête avec 46 points. Deuxième, Jarnac 41 points. Troisième, Grande-Champagne 39 points. Linard qui fait toujours la course en tête. En rugby, on va parler d'abord de D1 féminine avec le déplacement de la Gisoyo sur la pelouse des Girondines de Bordeaux. Défaite malheureusement 3-0 de Soyo, un score acquis à la mi-temps. Pour Soyo, malheureusement, le maintien se complique en davantage avec toujours 6 points de retard sur Dijon, mais avec seulement 3 matchs à jouer encore. Prochain match pour les filles de Soyo, ce sera la réception de Guingamp. On va donner les scores de cette D1 Arkema avec la victoire de Fleury 3-1 contre Reims, la victoire du Havre à Dijon 2-0, la victoire du Paris Saint-Germain à Guingamp 1-0, la victoire de Lyon contre le Paris FC 2-0 et la victoire de Montpellier à Rodez 3-2. Au classement, Lyon est en tête avec 52 points, deuxième le Paris Saint-Germain avec 51 points et troisième Fleury et le Paris FC avec 35 points. Donc pour Sorio, malheureusement, c'est toujours une dernière place avec 6 unités devant les Charentaises. Donc on retrouve Rodez 11e avec 11 points et Dijon 10e avec 12 points. Donc ça fait 7 points à rattraper pour Sorio alors qu'il y en a 9 à prendre. Donc mathématiquement ça devient très compliqué. Et d'ailleurs une défaite de Soyo lors de la prochaine journée contre Guingamp condamnerait mathématiquement du coup les filles de Michel Brazaia et de Tom Bouvier. En rugby, victoire du SA15 en Pro D2, victoire 18-11 contre Biarritz. Le SA15 qui fait un beau pas vers le maintien. On a débriefé le match avec Fred au préalable dans le SA15 Magattitude. En National, Cognac était tout proche de sa première victoire, défaite 20-19 à Suresnes. Les Cognacais qui ont eu la balle de match à la sirène, mais qui malheureusement n'ont pas pu la convertir. Dommage pour Cognac qui malgré tout repart de ce déplacement la tête haute. Dernier match dans 15 jours contre Albi pour les Cognacais. Enfin, en Fédéral 1, Barbezieux qui avait acquis son maintien le week-end dernier, se déplaçait à Oloron pour son dernier match de la saison. Défaite de l'UBJ 35-7, mais l'essentiel est assuré avec cette 10e place. Barbezieux se maintient en Fédéral 1 et évoluera toujours à ce même niveau la saison prochaine pour la deuxième année consécutive. En National 1 féminine en handball, défaite de la CH 31-26 contre Mios, le deuxième de la classe. Une bonne prestation de la CH, mais qui malheureusement a manqué d'efficacité offensivement. Dans l'autre match concernant les Charentais, Bruguière s'impose à Cognac 29-18. La CH est quatrième au classement. Cognac est toujours malheureusement dernier avec 21 défaites en 21 matchs. En basket féminin, fin de saison pour la Couronne Basket. La Couronne Basket qui s'incline à Rié 67-37. Donc c'est une 10e place pour les Couronnaises. Un bilan de 6 victoires et de 16 défaites. 28 points au compteur pour les filles d'Alex Ake. Et on va terminer bien sûr par les 24 heures du Mans moto. C'était l'événement du week-end avec notamment la pole position du CERT de l'équipe de Greg Black. Et malheureusement, notre pilote charentais s'est chuté dès le premier virage puisqu'il a été en contact avec la Honda de Josh Hook. Et malheureusement, le CERT donc a dégringolé à la 54e place pour finalement faire une remontée. Ils ont mis 24 heures à remonter des places et ils terminent finalement 7e. Les autres Charentais malheureusement ont abandonné. Julien Pilot avec sa numéro 24 a dû abandonner sur une chute de son partenaire qui a été percuté par une autre moto, et la 86 de Maxime Pellizotti n'a également pas rallié l'arrivée. Au classement général donc de ces 24 heures du Mans, c'est la Honda, championne du monde en titre, qui l'emporte, donc la Honda de Josh Hook, Magdi Meglio et Alan Teixeira qui l'emporte devant le Yart de Nicolo Canepa, Marvin Fritz et Karel Anika. Et troisième, la BMW de Marcus Reiterberger, de Ilya Mikalchik et de Jérémy Guarroni. Donc le CERT, Greg Black termine 7e donc de ses 24 heures du Mans. Pas une superbe opération au classement du championnat du monde, mais il reste encore 3 épreuves. Et d'ailleurs, la prochaine épreuve sera en Belgique, puisqu'il s'agira des 24 heures de Spa-Francorchamps. Tout de suite, Culture Sport, où Didier et Dédé ont reçu Rémi Faugère, l'entraîneur de l'ETEC. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Sport. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Hello, hello, bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Attitude, votre radio 98.3 Angoulême, 90.7 à Ruffec et Nord-Charente, www.attitudefm.com. Vous êtes bien sur Attitude pour votre émission Culture Sport, votre émission des sports, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Faugère, coach de l'ETEC. Rémi, bonjour, merci et bienvenue d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour et merci à vous de m'inviter ce soir.
J'accueille Dédé, notre mémoire vivante du sport en Charente. Dédé, bienvenue.
Bonsoir à tous. Bonsoir Rémi et Didier et aux auditeurs fidèles chaque lundi.
Rémi, ce que je te propose, c'est on va faire un bilan de un focus sur la saison passée, savoir comment ça s'est passé. Je te laisse la parole.
Du coup, on a une saison passée où on a fini quatrième du championnat, où on avait des ambitions quand même de faire un petit peu mieux et même jouer une montée avec des joueurs expérimentés, hein, des joueurs qui avaient connu la première division, des centres de formation et autres belles performances. Malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. On a essuyé quelques échecs, notamment sur des déplacements. On a eu du mal un petit peu à se déplacer. Et du coup, on finit quatrième de championnat, qui reste quand même le meilleur classement du club, hein, qui avait déjà été produit une fois. Et donc, ça reste quand même un classement plutôt honorable, mais pas à la hauteur des ambitions. Et donc, cette intersaison a été quand même pas mal mouvementée, avec pas mal de départs et une reconstruction d'équipe plutôt tournée sur la formation charentaise. On va pas dire ETEC uniquement, hein, parce qu'il y a des joueurs qui sont formés un petit peu dans tout le bassin charentais. Hein. On parlait de Le Gonfontou, que ça soit voilà tous ces clubs un petit peu qui tournent autour de nous, Mal, etc., qui peuvent amener des jeunes jusqu'à chez nous en équipe première, et quelques joueurs venus de l'extérieur pour restructurer et créer un équilibre. Et en se disant qu'il faut peut-être prendre un petit peu plus de temps, reconstruire autour de notre formation, autour de la formation du territoire, pour revoir un projet de monter sur cette saison 2022-2023. Voilà, pour faire un petit peu ce qui s'est passé l'année dernière et la stratégie de reconstruction d'équipe pour arriver à cette saison.
Qu'est-ce qui a manqué la saison dernière pour faire mieux, Rémi?
Ouais, je sais pas, c'est toujours un équilibre assez fin, hein, pour trouver la réussite, l'alchimie entre les joueurs, le staff et la performance. C'est un équilibre assez minutieux. Il nous a manqué, je pense, un petit peu cette alchimie complète, hein, un petit peu de réussite sur quelques matchs où on lâche des points à un but, un match nul ou une défaite qui se joue à quelques petites choses. Voilà, on le voit là nous sur cette saison là, c'est qu'en fait ces matchs là ils tournent plutôt en notre faveur. L'année dernière c'était plutôt l'inverse. Et voilà.
Avant de rentrer dans le terrain, dans la salle, moi j'aimerais connaître un petit peu, je pense que je suis pas le seul, connaître un petit peu ta biographie, Rémi. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens, où tu as commencé à jouer au hand, est-ce que tu as fait avant de venir à l'ETEC, et comment tu es venu à l'ETEC?
Alors je vais essayer de pas vous saouler parce que je peux être assez bavard, mais donc j'ai 30 ans actuellement, et donc je suis originaire de Carmo, un petit club à côté d'Albi dans le Tarn, où j'ai été joueur jusqu'à une vingtaine d'années, puis j'ai voulu un petit peu m'émanciper, passer mes diplômes d'entraîneur, et donc je suis passé par Redon pendant une année, où j'ai passé un diplôme d'entraîneur et un BPJEPS, ce qui m'a permis d'être salarié dans des structures sportives, puis 3 ans dans le club de Frontignan qui m'a fait grandir, passer encore des diplômes, qui est actuellement un club de deuxième division, donc il m'a fait vraiment apprendre toutes les notions de professionnalisation de structure, de méthodologie de construction de projet, donc j'ai pas mal grandi, où j'ai côtoyé des équipes de niveau national 1, national 2, des entraîneurs plutôt réputés. Puis une année à Aix-en-Provence en tant qu'entraîneur numéro 1 dans la national 2 filles. Donc 3 ans ici à l'ETEC, c'est ma 3e saison en tant qu'entraîneur numéro 1 en national 2 garçon. Donc une évolution plutôt constante et une envie toujours d'avancer dans mes projets futurs encore.
Et venu comment à l'ETEC?
C'est un recrutement, il y a une ouverture de recrutement, donc j'ai candidaté. Je sais qu'il y avait beaucoup de candidats, des anciens internationaux, il y avait des beaux noms, mais je pense qu'il y avait une envie aussi d'une personne qui garde aussi des valeurs proches du club, et des valeurs humaines fortes, pouvoir partager et pouvoir construire en même temps un projet qui se professionnalise dans tous les plans au-delà du sportif.
Le projet, c'était de vous aviez combien de temps pour essayer de monter au niveau supérieur dans le projet?
Alors, on était dans un projet où il y a le Covid qui est passé au milieu. Oui, oui. Alors, l'année juste avant le Covid, le club finit quatrième. Les 3 premiers étaient montés parce qu'ils avaient donné une accession possible un petit peu plus large avec ce qui s'est passé. Donc, on meurt un peu au pied de cette montée avec un mauvais résultat et une journée juste avant la clôture des championnats au mois de février. Donc un peu une défaite qui aura coûté cette montée-là à ce moment-là. Donc c'est vrai que ça avait laissé, je pense, des regrets un petit peu dans les têtes de tout le monde. Donc une envie de remonter le plus rapidement possible. Alors ben, l'année dernière, ça n'a pas été le cas. Cette année, on n'est plus en course sportivement, même s'il reste des dossiers à faire. Mais là, l'objectif, c'est voilà, maintenant, c'est chaque année de faire partie des gros clubs et de quand la porte s'ouvre, la prendre, parce qu'il y a une équipe malheureusement qui monte par an, malheureusement ou pas, hein, mais qui monte par an, ça fait quand même peu d'élus. Les places sont très chères et les projets quand même grandissent et le handball se professionnalise de plus en plus et des projets naissent. Donc ben, il faut rester constant, il faut continuer à avancer pour pouvoir à un moment si la porte s'ouvre la prendre et être cohérent au niveau supérieur.
Alors il y a eu des regrets, hein. Je l'ai lu également dans la presse au niveau du match de Limoges, mais il y a aussi des regrets dont 4 matchs nuls.
Ouais, ben c'est en fait on fait un très très bon début de saison jusqu'au mois de décembre. On arrive à une trêve avec des joueurs très fatigués qui ont pris des matchs à l'arraché au bout du bout, qui ont peut-être même un peu surperformé sur certains matchs et ont réussi à arracher des matchs qui auraient peut-être pas dû être pour nous dans la besace. Et au final, on est parti en vacances de Noël premier de notre championnat. Et en fait, les pépins physiques à la reprise, on fait que on a lâché des points, on fait des matchs nuls, on lâche des points un petit peu difficilement à Libourne et à Irizarry. À Libourne on était à moins 7 à la mi-temps, on revient à Irizarry, on était à plus 7 au score et on se fait remonter. Donc on voit aussi la fragilité de cette très jeune équipe, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunes joueurs. Des fois quand on voit le set de départ, on a 3-4 joueurs de 20-21 ans pour jouer une accession, ça reste quand même des jeunes joueurs qui doivent gérer des ballons qui sont importants avec une pression globale du club sur leurs épaules. Donc ça reste quand même une belle performance pour le type de groupe que c'est, mais forcément on pourra ambitionner encore mieux et gommer ces petites erreurs, mais je pense que c'est une vraie année d'apprentissage.
Manque de banc peut-être aussi, non?
Ouais, en fait comme on l'a dit, c'est qu'en fait on a reconstruit une équipe cette année qui devait quasiment jouer un maintien, hein, parce qu'on devait, on voulait rebâtir, il y a eu beaucoup de départs, donc on a reconstruit sur nos jeunes, on s'appuie sur la formation, c'est-à-dire on va chercher quelques joueurs de l'extérieur pour amener un peu d'expérience. Mais on se pensait vraiment court pour jouer les premiers rôles dans ce championnat-là. Et au final, ben, une fois que la mayonnaise prend plutôt bien, on a un groupe qui vit bien avec des jeunes qui ont pris leurs responsabilités et on se retrouve donc à jouer les premiers rôles. Donc c'est bien, c'est agréable, mais ça amène aussi des fois un peu plus de responsabilités, un peu plus de pression. Et pour ces jeunes joueurs, peut-être des fois un peu d'irrégularité. Là, le match à Limoges est parlant. Il y a de la fatigue aussi sur ces joueurs qu'on utilise beaucoup, parce qu'on n'a pas des joueurs de 1m90, 100 kilos, comme certains clubs peuvent avoir fait avec nos jeunes aussi.
Rémi, une stat, même s'il n'y a pas que ça, donc c'est, vous êtes avec 44 points donc, et 11 victoires, vous avez donc la 7e défense et la 2e attaque. Donc on voit que l'aspect offensif est bien maîtrisé, hein. D'ailleurs bon, il y a qu'une équipe qui fait meilleur que vous, qui fait mieux que vous, pardon, sur l'aspect offensif. Sur l'aspect défensif, il y a peut-être quelques difficultés.
Ouais, mais c'est les profils. Enfin, les matchs du mois de janvier notamment, on avait des joueurs qui jouaient plutôt dans un bloc central. Alors le handball c'est assez structuré comme ça en défense. C'est un bloc central qu'on appelle nous des postes 3, qui sont des joueurs souvent un peu plus grands, un peu plus denses. Des joueurs poste 2 qui sont un petit peu l'entre-deux avec des joueurs mobiles. Plutôt grand si possible, sinon des joueurs qui sont en capacité de gagner des duels défensifs directs, et des postes 1 qui sont souvent des joueurs un peu plus petits, rapides. Et donc on avait nos postes 3, les solides, qui doivent gagner beaucoup de duels et aller un peu plus au combat, qui eux étaient blessés et qui ont donc eu du mal à un petit peu ceux qui les remplaçaient à performer. Donc on a pris un peu plus de buts et on a quand même beaucoup moins de gabarit que des équipes du haut de tableau. Quand on prend Bruges, Assen ou Libourne, si on nous met à côté dans la salle, souvent à l'échauffement on est les petits gringalets, les grands costauds en face, quoi. Donc on compense avec notre attaque, mais c'est forcément contre aussi quelques petits points faibles défensifs.
Donc ça veut dire beaucoup plus de rapidité dans les phases de transition et beaucoup plus d'inventivité pour pouvoir tromper les défenses adverses.
C'est ça, on a un jeu quand même là assez ouvert où tout le monde arrive à s'exprimer suivant les matchs. Il n'y en a pas un buteur bien défini, c'est que tout le monde peut aller marquer ses buts. Voilà, dans les 40-50 premiers, on a quand même 5 joueurs à nous qui viennent s'exprimer, et puis en fait on a pas mal de joueurs qui marquent plus de 2 buts par match quand quasiment dès que ça joue, quoi. Donc ça reste intéressant. Le danger peut venir de beaucoup d'endroits.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi 19h, 20h30. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Faucher, le coach de DTEC, qui va répondre aux questions de Dédé.
Est-ce que le placement actuel est logique en fonction des matchs qui se sont déroulés, ou vous devriez peut-être être premier, les premiers peut-être deuxième, comment vous le voyez?
Non, moi je pense que Bruges a quand même une équipe plutôt solide, hein. Offensivement c'est très fort, défensivement il y a quand même de très bons défenseurs, ils s'appuient sur des joueurs qui n'ont pas eu la possibilité d'aller jouer en deuxième division sur l'équipe première par des choix aussi personnels et professionnels, donc qui sont venus alimenter cette équipe réserve. Et derrière, en fait, on voit que quand même le championnat est assez dense, où tout le monde peut lâcher des matchs. Contrairement à certaines poules, il y a des équipes à zéro défaite ou une défaite. Nous qui sommes deuxième, on a 4 matchs nuls, 3 défaites. Et derrière, les troisièmes, ils ont déjà perdu 6 matchs et 3 matchs nuls. Le quatrième, 7 défaites. Enfin, si on prend le truc comme ça, c'est, en fait, le championnat est quand même assez ouvert. En fait, entre la troisième place et la neuvième place, en fait, ça se joue à 5 points. 5 points, c'est rien, hein. En 3-4 matchs, ça peut être très très vite remonté et rebasculer tout le championnat. Des équipes comme Saint-Nazaire qui sont...
Par rapport à la saison passée, si vous étiez dans la même configuration qu'aujourd'hui, est-ce que l'année dernière, vous auriez monté si vous aviez été deuxième, ou il n'y avait que le premier également?
Non, il n'y a que le premier qui monte. Alors forcément, là, il y a des discours, des choses qui existent sur le club de Bruges, il y a des incertitudes. Maintenant, sportivement, si à la fin d'un championnat, on est deuxième... Et malheureusement, avec 5 points d'écart à 4 journées de la fin, ça me semble compliqué au rythme de Bruges auquel ils avancent de pouvoir récupérer cette première place. On ne montera pas. Maintenant, et bien après, il y a le côté administratif. On ne sait pas. On garde aussi. On ne souhaite pas de malheur au club de Bruges. Mais si à un moment on nous donne la possibilité d'accéder au niveau supérieur pour quelconque raison, c'est sûr qu'on refusera pas une montée au niveau supérieur. En tout cas, on est structuré pour sur tous les plans.
Parle-nous de ton de ton équipe, des mouvements qu'il y a eu l'année dernière et des arrivées. Donc comment se compose ton équipe, en fait?
Alors on a eu un départ de Dorian Signoret, Ludovic Bussard, Davorin Vranić et Guillermo Rosarribas qui étaient 4-5 gros piliers de l'équipe, donc des gros départs. Et donc autour de ça, il a fallu reconstruire avec des jeunes de l'équipe réserve et des arrivées. Dans ces arrivées-là, on a Gauthier Mvumbi, qui est un joueur connu internationalement par le buzz qu'il a fait sur les réseaux sociaux, qui est au poste de pivot. À côté de ça, on a également recruté Damien Puma, qui est une connaissance personnelle, qui joue à un niveau régional, mais qui avait un très très gros potentiel, que moi j'ai fait intégrer à ce groupe-là et qui fait partie des joueurs cadres maintenant de ce groupe-là. Et après, ben, plutôt des jeunes, voilà, comme je disais, issus de la formation, comme Mathias Pultier, qui a tout juste 18 ans, Christopher Brouillet, qui était joueur de l'équipe réserve. Voilà, on travaille vraiment autour de ça, et avec toujours cette identité club, de dire qu'en Charente-Claire, ça reste un territoire où ça forme des joueurs de qualité. On le sort des joueurs en centre de formation, en équipe de France jeune très régulièrement, nous les techs, mais souvent des joueurs issus de d'autres clubs avant nous, et ça reste une fierté, donc aussi une petite garantie sur la qualité des joueurs qu'on peut avoir dans le secteur.
On peut parler également, Rémi, puisque on a la chance de t'avoir ce soir, sur la formation. Tu as beaucoup parlé depuis notre entretien sur la formation, sur ces jeunes qui sont des jeunes, on va dire des locaux, hein, puisque Mansle, Chasseneuil, tout ça, c'est autour de La Rochefoucauld. On peut parler de la formation, comment vous vous organisez, comment vous répartissez les tâches?
Moi, je suis manager en dessous de moi, à côté de moi, qui m'accompagne. J'ai William Laville, qui est responsable du secteur jeune, qui est salarié de la structure et qui pilote tout le travail de formation qui est fait au club, avec forcément des entraîneurs par catégorie, sur lesquels on essaie de travailler sur une vraie identité charentaise, avec des entraîneurs sur lesquels on essaie de travailler sur des moments techniques, des temps d'échange, les accompagner, faire des suivis sur leur formation pour qu'ils puissent travailler avec nos jeunes sur le territoire, parce que nous on intervient travaille quand même sur La Rochefoucauld et sur Chasseneuil. Hein, ça, c'est notre vrai territoire d'action, les deux municipalités qui nous accompagnent dans le projet. Donc, on travaille sur les jeunes de ce territoire-là, dès le baby hand. Alors, même si là, on n'est pas sur le travail de formation, mais à partir de moins 9, déjà, on a des temps, des cycles d'entraînement prédéfinis où on veut travailler des choses précises, où les jeunes enfants sont là pour prendre du plaisir, forcément. Mais nous, on essaie déjà de mettre un cadre en place pour que ils apprennent des bases adaptées à leur catégorie et qu'on puisse proposer, en plus d'une animation, un travail de formation pour nos jeunes joueurs et les amener, éventuellement, si c'est leur projet aussi, vers du sport, au mieux de haut niveau, comme certains de chez nous sont en cours de faire des équipes de France jeunes, mais d'une nationale 2 ou une pré-nationale, une équipe réserve, ou des joueurs, parce que c'est notre souhait aussi, qui repartent sur des clubs du département de niveau régional, parce que c'est important que aussi il y ait des retours sur des jeunes joueurs qui repartent sur d'autres clubs, parce qu'on n'a pas le potentiel aussi de garder tout le monde chez nous, et c'est important de pouvoir échanger ces transferts de joueurs qui se passent.
Avant, il y avait Chasseneuil et il y avait La Rochefoucauld qui était indépendant. Et donc, il y a eu un regroupement, il y a eu une entente qui s'est faite entre La Rochefoucauld et Chasseneuil, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça s'appelle le TEC. Il y a peut-être d'autres qui se sont greffés également.
Non, c'est Chasseneuil et La Rochefoucauld. Donc, les deux municipalités nous mettent à disposition les gymnases pour qu'on puisse nous travailler et avoir des créneaux et donc développer et proposer des activités en plus des entraînements, des stages vacances et donc sur une zone rurale, pouvoir proposer des activités en plus, ce qui reste, je pense, une richesse pour ces zones rurales qui ont du mal des fois à proposer des choses. Voilà, nous on essaie d'être proactifs aussi dans ce secteur-là et ça c'est important.
Toutes ces deux belles structures pour les jeunes.
Ouais, effectivement, c'est un seul club mais deux municipalités qui s'unissent pour accompagner un projet et un club qui, je pense, essaye de rendre aussi par toute cette structuration-là sur le territoire.
Vous écoutez Attitude 98.3, pardon 90.7, www.attitudefm.com. C'est Attitude, votre radio en Charente, la radio de proximité la plus écoutée. Vous écoutez donc Culture Sport, c'est votre émission des sports, chacun dit 19h-20h30. Nous retrouvons Rémi Faugère qui répond aux questions de Dédé. Dédé, c'est à toi, mon grand.
On parlait des jeunes. Ça fait un effectif de combien? Vous avez un effectif de combien actuellement en ce qui concerne les jeunes et quels sont les il y a peut-être des jeunes prometteurs puisque déjà on en retrouve quelques-uns notamment en National 2. Est-ce qu'on peut notamment parler de ces jeunes pousses?
Oui, bah alors on a là actuellement, on a quand même j'étais en train de compter combien on avait de joueurs qui avaient joué depuis le début de l'année. Il y a 23 joueurs différents qui ont joué sur l'équipe nationale 2, c'est une défaite de match à 14. On a 23 joueurs différents qui ont joué au moins un match depuis le début de la saison sur notre équipe nationale 2. Preuve que la formation marche et qu'il y a une équipe réserve qui a un lien direct. On a un groupe, nous, d'à peu près 16-17 joueurs où on élargit le groupe sur des groupes d'entraînement, souvent une vingtaine, parce qu'on ouvre les entraînements à l'équipe réserve. Et on a une équipe réserve qui est en première de son championnat pré-national, le plus haut niveau régional, en passe de monter en National 3. Donc, ce qui, en fait, nous assure aussi un vivier et une ressource directe pour l'équipe première, des joueurs de niveau inférieur, du moins de l'équipe réserve, qui sont de qualité. On peut s'appuyer dessus. Quand on voit que 23 joueurs ont joué en équipe première, voilà. On voit aussi que dès qu'il y a des blessés, des besoins, ou en fonction des profils des joueurs, on peut s'appuyer aussi dessus. Et ça, c'est une vraie garantie de qualité de formation.
Parle-nous un petit peu des résultats de l'équipe B, Rémi.
Alors, l'équipe B, ils sont premières de leur championnat. Il reste 4 matchs. S'ils gagnent 3 matchs sur les 4, ils accéderont à la Nationale 3 l'année prochaine, avec des obligations assez complexes, parce qu'ils doivent avoir que 4 joueurs de plus de 22 ans sur la feuille de match. Donc, ça veut dire qu'il faut faire place aux jeunes joueurs sur le territoire, sur cette équipe réserve, pour pouvoir à un moment évoluer notre équipe, faire évoluer notre équipe réserve au niveau national. Donc, c'est faire place aux jeunes, les jeunes de notre formation, de notre territoire. Donc, ça, c'est aussi une difficulté au quotidien à gérer, parce qu'avoir que des jeunes joueurs pour tenir de la performance et monter les joueurs pour une accession, c'est pas simple, mais comme quoi c'est possible que pour l'instant ils sont plus qu'en course parce que c'est eux les premiers. Ouais, c'est une fierté, c'est un objectif aussi de faire monter cette équipe-là réserve au niveau national 3.
Est-ce que vous avez un regard également sur la jeunesse féminine?
Ah, on regarde, on a quand même une politique de club garçon. C'est assumé, c'est communiqué. On a une filière fille qui a le mérite d'exister, où il y a du travail qui est fait, où il y a des jeunes filles qui sont en sélection départementale, qui vont faire des thèses d'entrée pour des pôles espoirs, mais notre politique de club n'est pas de développer une filière de performance féminine. Il y a un club qui est en charge, le fait très bien avec la CH, Cognac dans son secteur, il travaille aussi. Nous, l'objectif, c'est de pouvoir travailler aussi plus proche de nous sur le club de l'ACH et pouvoir que s'il y a des jeunes identifiés profil de joueuses de haut niveau ou du moins de niveau national, hein, qu'elles puissent à un moment raccrocher à ce type de projet-là et qu'il puisse y avoir aussi, comme on le fait avec d'autres clubs sur les garçons, nous, on puisse aussi faire un vrai lien avec le club, par exemple, de la CH.
Quels sont vos projets pour la saison prochaine au niveau de l'ETEC?
Le club, là, donc, c'est de jouer les premiers rôles, hein, en National 2, si on est toujours en National 2. Il y a, du coup, on est en pleine période de recrutement, et c'est de continuer à travailler sur toute notre structuration interne, professionnaliser toujours les soirs de match, continuer à travailler sur notre formation des jeunes, avec une accession aussi de nos jeunes 17 ans régionaux qui aimeraient retrouver les 18 ans nationaux. C'est un projet global, hein, qui mélange du sportif et de la structuration et de la professionnalisation de projets de structure. Voilà, c'est un petit peu un mélange de tout, avec un changement de staff sur l'équipe première qui est déjà acté, non annoncé mais acté, recruté du moins. Et donc voilà, là c'est la phase de recrutement, prise de contact un petit peu, et la construction sur le groupe de l'année prochaine pour soit avoir un maintien national 1 si jamais on venait être national 1, soit jouer une accession national 1 sur l'équipe première un petit peu.
Tu parlais des modifications au niveau du staff, Rémi.
Oui, c'est ce que je voulais
en dire un peu plus.
Moi je suis partant la saison prochaine pour un projet qu'on m'a proposé sur un club de première division féminine en tant qu'entraîneur adjoint. Et du coup, l'échange avec les dirigeants est de confiance et tout se passe en très bon terme, nous avons recruté un entraîneur sur la saison prochaine qui continuera à faire avancer ce projet-là au même rythme, on espère, et il n'y a pas de raison.
Est-ce que tu peux nous donner l'identité du nouveau coach?
Non, malheureusement, on n'a pas communiqué encore au joueur, donc je ne peux pas communiquer ceci.
Vous, Rémi, c'est pour aller entraîner une équipe?
Je vais être entraîneur adjoint à Toulon, chez les féminines qui jouent en première division, du coup, avec Joël Da Silva, qui est un gros entraîneur de niveau européen, qui a joué des finales européennes, etc. Donc, un bel entraîneur dans cette.
C'est bizarre un petit peu. Dans la discussion, on a beaucoup parlé de masculin. Et donc, c'est la politique, évidemment, de la Rochefoucauld, si j'ai bien compris, la Rochefoucauld-Chasseneuil. Et là, vous allez entraîner vous allez être adjoint à Toulon, une équipe féminine?
Oui, c'est ça, exactement. Alors, tous les deux, Joël, l'entraîneur qui prend aussi la tête de plan, n'a jamais entraîné de filles. Alors, si, dans le niveau amateur, quand il était beaucoup plus jeune. On va avant tout pour sur ce projet de Toulon pour un vrai projet, parce que il y a une vraie envie de faire quelque chose, la possibilité de construire un projet, de repartir à zéro par rapport à ce qui se passe cette année, et une vraie conviction que nous on peut amener quelque chose, une vision aussi de ce qui se fait dans le handball masculin, parce que Joël Da Silva est un gros entraîneur de handball masculin et il pense que le handball féminin mérite aussi de travailler comme le handball garçon, avec c'est des joueuses aussi professionnelles, et je pense qu'elles attendent aussi ça, d'être traitées comme des handballeuses professionnels, en s'entraînant deux fois par jour avec des gros rythmes d'entraînement. Donc, juste avant, j'entraînais des filles avant de venir à la Rochefoucauld, à Chasseneuil, à l'ETEC. Et donc là, je repars chez les filles. Je suis pas fermé. L'objectif, c'est aussi d'avancer, d'apprendre. Moi, mon souhait, c'était aussi d'être entraîneur adjoint dans un niveau professionnel. Et bien là, c'est quand même une vraie opportunité, avec un entraîneur qui a un beau CV, de pouvoir continuer à apprendre et grandir dans un autre projet.
Quel souvenir que vous garderez de la Charente?
Je pense un public très très chaleureux ce soir de match à 500 personnes dans ce gymnase où on sait plus où mettre les gens, parce que c'est une problématique aussi que, en tant que manager du club, je dois traiter au quotidien la semaine, mais avoir ce gymnase plein, ces matchs à l'arracher dans les dernières minutes, surtout cette saison où on va à -2 ou -3 à 3 minutes de la fin, on arrive à gagner le match ou arracher un match nul, et ce public qui exulte de l'arracher de ce dénouement de ces fins de match, ouais, c'est vrai que c'est rarement des gymnases quand même qui vibrent aussi fort que ce que nous on peut vibrer, je pense à la Rochefoucauld, et ceux qui ont pas eu l'occasion de le vivre peuvent, je pense, l'entendre localement, c'est qu'il se passe quand même quelque chose dans ce gymnase, et je pense qu'il faut être curieux et venir voir ce qui se passe, mais je pense que j'y garderai vraiment ce petit souvenir en tête, c'est ce chaudron qui a une âme, je pense qu'il a une âme.
Ouais, c'est comme en Angleterre sur les matchs de foot où les spectateurs sont juste derrière la main courante.
C'est ça, exactement.
Ce départ, vous avez averti le club il y a quelques semaines ou c'est juste...
Non, ça a été anticipé. D'accord. J'ai rencontré les dirigeants, il me semble mi-novembre, du moins le président, où je lui ai annoncé que j'avais une proposition que je pouvais pas refuser, que je voulais que on était premier à ce moment-là du championnat, que je voulais pas qu'on déséquilibre tout et qu'il fallait continuer à avancer, que dans tous les cas je serais engagé dans le projet jusqu'à la dernière minute en contrat dans le club et que il y a pas de raison que j'arrête de travailler, que les performances s'arrêtent, et ça s'est fait en toute intelligence, ou même si il y a eu forcément une petite déception parce que les relations sont très bonnes avec les dirigeants, il y a une vraie confiance avec l'administration et notamment le président, il fallait avancer et j'ai même été en responsabilité du recrutement sur du futur entraîneur, donc on veut dire la confiance et le lien qu'il y a avec les dirigeants et moi actuellement.
Oui, c'est sûr que vous allez manquer à la Rochefoucauld parce que quand on voit le public que vous avez emmené et puis évidemment les joueurs, ces jeunes joueurs qui sont prometteurs à vous entendre, vous écoutez avec attention. Vous êtes aussi investi dans la formation, hein, parce que vous parlez beaucoup de jeunes dont 23 ont intégré l'équipe nationale 2 au cours de cette saison qui n'est pas encore tout à fait terminée. Comment vous faites également pour composer l'équipe?
On a un groupe quand même un petit peu défini, où on vient, on a un groupe de 18 à peu près, en fonction de un peu l'état de forme, des blessures ou non, on vient un petit peu dessiner ce groupe-là à 14, où au handball il y a 7 postes, et donc on vient, on essaie de doubler chaque poste. Quand on regarde 14, il y a 7 postes, on arrive quasiment à doubler chaque poste. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a un défenseur exclusif, donc à chaque fois dans l'équipe, il y a un poste où un joueur se retrouve un petit peu tout seul, et on essaye d'avoir un binôme fort, le plus fort possible, le plus performant possible sur chaque poste, pour pouvoir le week-end essayer de performer un petit peu. Voilà un petit peu la construction du groupe, comment elle est réalisée.
Est-ce que le poste de gardien est doublé aussi, Rémi?
Oui, on a deux gardiens, on a un jeune gardien, Romain Mercier, qui fait une très très grosse saison cette année, accompagné d'un gardien plutôt d'expérience qui est Alexandru Basiliu, qui est arrivé d'Obja cette année, qui est un gardien roumain, qui a connu des niveaux nationaux, qui a joué en deuxième ou première division en Roumanie, je vais pas vous dire de bêtises, mais qui est un gardien d'expérience et qui vient apporter sa sagesse et son calme à Romain, qui est plutôt un gardien plutôt en chaleur, en feu, joueur, provocateur, mais qui fait tout son charme, surtout dans le gymnase une fois appelé.
Le fait d'intégrer un club comme Toulon, ça s'inscrit dans une logique.
Oui, ben moi, il y a 3 ans, quand j'étais arrivé à La Rochefoucauld et en signant mon contrat, j'avais annoncé que je resterais pas ici à vie et que mon projet, c'était de pouvoir atteindre le haut niveau, et que ce projet, pour moi, correspondait à ça, était un vrai tremplin pour moi vers le haut niveau, parce qu'il y avait une possibilité de structurer, de travailler, évoluer pour moi, et avec un projet qui était ambitieux, il l'est encore, et ça c'est important, et donc la preuve que je ne suis pas trop trompé, parce que ce projet-là, le projet m'a fait grandir. Alors moi, j'ai essayé de mettre les ingrédients à l'intérieur, mais l'image du club, le travail, tous les dirigeants, les bénévoles qui travaillent autour du club, et moi à l'intérieur, m'ont permis d'évoluer, d'arriver en fait 3 ans plus tard prêt à intégrer une structure de haut niveau en tant qu'entraîneur adjoint. Donc ben voilà, c'est une marche de plus, je compte pas m'arrêter là non plus, je vous cache pas, j'espère aussi, j'ai 30 ans, je suis jeune, mais j'espère à un moment pouvoir évoluer en tant que numéro 1 aussi sur du plus haut niveau.
Tu veux dire sur la première ou deuxième division masculine.
C'est ça, exactement. Voilà, si un jour j'ai cette chance-là, ben je pense que j'aurais sûrement pas réussi ma carrière parce qu'après il faut performer sur ces niveaux-là. Mais en tout cas, ça ressemblera à un début de quelque chose de très très cohérent du début à quasiment la fin.
Vous avez un contrat de combien pour Toulon et c'est vrai que d'aller second coach à Toulon, c'est quand même des équipes professionnelles, donc en fonction des résultats, vous êtes demandé forcément.
Ouais, c'est ça. Mais c'est un contrat de 2 ans là actuellement la structure de Toulon ne demande pas forcément des performances, mais plutôt retrouver une identité de club, pouvoir travailler sur vraiment promettre c'est l'image de combat, de travail, et en fait les victoires elles reviendront toutes seules, et donc ben voilà, on a travaillé vraiment autour de tout ça avec l'entraîneur, et moi je voulais être aussi adjoint dans le monde professionnel pour apprendre les codes, parce que entre le monde amateur et être entraîneur principal à National 2 et être entraîneur adjoint dans le monde professionnel, il y a des codes et des choses à apprendre, et c'est important je pense de passer par ces étapes là qui sont clés aussi dans la formation. On parle souvent de formation de joueurs, mais la formation d'entraîneur, les comportements, les façons de s'exprimer, et tout ça, ben ça s'apprend aussi, c'est des codes qui s'apprennent, et je pense que j'ai encore beaucoup beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de choses à transformer pour pouvoir être performant un jour en tant que numéro 1.
À ton avis, Rémi, quelle est la différence, si toutefois il y en a une, entre coacher une équipe masculine et une équipe féminine?
Je sais pas, j'ai du mal à, pourtant je l'ai fait, hein. Je suis passé de un à l'autre, je pense que il y a peut-être le côté un peu affectif et sensibilité personnelle, où les égos masculins sont peut-être un peu plus forts et la sensibilité féminine un petit peu plus marquée. Mais je pense que si on le cadre et les règles l'un dans l'autre sont posés et sont les mêmes, au final on a des sportifs de haut niveau qui veulent performer et qui veulent donner quelque chose pour le projet, et au final on travaille avec plutôt des sportifs de haut niveau que des hommes ou des femmes, je pense.
Le fait de pouvoir accéder à entraîner des équipes de division 1 et 2, est-ce que ça passe par des diplômes, ou est-ce que tu as tous les diplômes requis, Rémi?
Il me manque un dernier diplôme pour pouvoir être entraîneur numéro 1 en première division. Vous voyez, vous êtes dans pile poil dans le sujet, parce que la semaine dernière j'ai passé un entretien pour pouvoir rentrer dans ce dernier diplôme. Alors malheureusement il y avait 30 candidats et 10 sélectionnés. Je n'ai pas fait partie des 10 parce que je n'ai pas encore aussi l'expérience dans le monde professionnel, mais voilà, en face de moi il y avait des entraîneurs forcément beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus vieux, et je pense que d'ici 1 ou 2 ans je serai dans cette formation et je pourrai un jour m'exprimer seul aussi dans le monde.
Vous écoutez Altitude 98.3, 90.7, www.altitude.com. Merci de votre fidélité. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi, 19h, 20h30. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Faugère, le coach de DTEC, qui va répondre aux questions de Dédé.
Oui, c'est comme dans une entreprise, hein. Il faut une certaine expérience avant de conclure par la formation. En partant de l'ETEC pour rejoindre la formation de Toulon, vous parliez tout à l'heure de votre successeur, de ceux qui sont susceptibles de venir, mais au niveau effectif pour l'année prochaine, est-ce que les mêmes joueurs, à un ou deux près, seront les mêmes?
Oui, alors, il y aura peut-être un petit peu de mouvement, un arrêt ou un départ ou deux, mais on pourra avoir déjà reçu quand même quasiment la majorité des joueurs, tous, et puis dans une saison comme ça, forcément, ils prennent du plaisir et ont envie de rester dans ce projet-là. On est dans une structure qui travaille, qui a une belle image, qui travaille à tous les étages, hein, autour de l'équipe première, mais pas que. C'est une vraie professionnalisation de tout ce qu'on peut proposer autour des matchs. Ils jouent dans un gymnase qui est plein, il y a une ferveur, et en fait ils se rendent compte aussi, je pense, la chance qu'ils ont d'être présents dans une structure comme celle-ci. Et en fait on a la majorité des joueurs qui veulent rester dans ce type de projet-là, dans ce projet-là, et donc on va venir chercher un petit peu des joueurs un peu plus expérimentés sur certains postes, un peu plus de densité physique aussi, parce que on échangeait un petit peu tout à l'heure là-dessus, ça nous a manqué, je pense, sur certains matchs, un peu de taille, un peu de poids sur certains postes. Et je pense qu'il faut, si on a National 1, il le faudra absolument, et si on veut monter, il faudra aussi ce type de joueur-là pour que dans certains matchs on puisse s'affronter physiquement physiquement directement avec certains adversaires.
Quelles sont les prochaines rencontres là, vous en avez quatre. On peut les citer, les prochaines rencontres, et notamment ceux qui vont se disputer à La Rochefoucauld.
Ouais, alors on reçoit dès la semaine prochaine, ce samedi là, vu que on est lundi soir, c'est ce samedi, Bègles à domicile, 19h à La Rochefoucauld, au gymnase de La Rochefoucauld. Donc déjà beaucoup de monde attendu, un match important, une victoire importante dès ce samedi. Juste derrière nous, Asson joue les Girondins qui a besoin de de gagner les matchs, et donc on peut espérer aussi que les troisièmes puissent lâcher les points. C'est peut-être notre affaire pour la deuxième place. Derrière, on aura un déplacement compliqué chez les troisièmes à Asson le samedi 6 mai. Donc ça sera un match compliqué, mais bon, il faudra aller aussi en terre pyrénéenne parce que c'est toujours des matchs à approcher. On se déplacera chez les Girondins de Bordeaux, qui est une équipe qui descend de National 1 et qui a du mal cette année, qui donc joue encore sa place en National 2 la semaine prochaine. Donc il faudra besoin de gagner le dimanche 14 mai. Et la dernière journée de championnat, le 20 mai à domicile face à Libourne à 20h30, et où là il y aura un vrai moment de fête, où on a prévu de faire un petit concert en extérieur dans notre espace bodega ou avec food truck, d'habitude le food truck, mais là avec une vraie ambiance, un vrai show sur ce dernier match pour finir la saison quand même malgré tout en beauté, parce que on devait jouer un maintien, on se retrouve à une place plus qu'honorable, une deuxième place qui sera historique, on explose tous les records, nos partenaires répondent plus que présents, les municipalités nous suivent. On vient de battre le record de licenciés du club, et juste en se disant que on est que la deuxième saison après le Covid, et on vient de battre le record de licenciés de club, et c'est quand même, je pense, un gros signe comme quoi le club va vite, va fort et va bien, surtout parce que tous les feux sont verts, et ça c'est important, on sent pas de déséquilibre nulle part.
Ça fait combien de licenciés, Rémi?
311 exactement, le record était à 310 avant le Covid. On avait fait 310 juste avant le Covid, donc c'était le record déjà du club, 310. Et donc on vient de faire cette année, on avait perdu une centaine de licenciés avec le Covid, et on vient de faire 311 licenciés la semaine dernière.
Alors ça se décline comment? Il y a combien d'équipes en senior et combien d'équipes chez les jeunes?
Alors on a 4 équipes seniors garçons, 2 équipes seniors filles, et après on a une équipe par catégorie, garçons et filles, moins de 18 filles, moins de 17 garçons, moins de 15 garçons et filles, moins de 13 garçons et filles, moins de 11 garçons et filles, moins de 9 mixtes, et du baby hand. Un petit peu, voilà, pour vous faire les gros, j'ai pas les chiffres exacts de la répartition, mais on bat aussi le record de licenciés féminines pour un club garçon. Ça reste à montrer aussi, parce que bon, on n'oublie pas les filles, même si c'est pas notre projet premier, on travaille aussi sur ça.
Ça implique qu'il y ait beaucoup de formateurs, d'entraîneurs, il y en a.
Oui, exactement. C'est ça, on a nos joueurs d'équipe première et d'équipe réserve qui sont très investis sur la formation de nos jeunes, qui viennent aider, qui viennent encadrer ces jeunes. Donc en fait c'est aussi une chance pour nos jeunes du territoire d'avoir des joueurs qui ont une certaine expérience, du niveau, on n'est pas sur le niveau semi-professionnel mais on s'en rapproche, qu'une vraie culture handball, donc qui leur parle handball, et de côtoyer ces jeunes là au quotidien, je pense que c'est une vraie chance. Donc voilà, ils sont investis, ils sont là, on a quasiment 2 entraîneurs par catégorie. Je pense qu'on peut être fier de ce qu'on propose sur notre formation des jeunes et l'encadrement des jeunes qu'on propose sur Chasse-Neuil et La Rochefoucauld.
Donc le club a évolué depuis que tu es arrivé. Donc t'as vu ce club grandir, courber les chines sous la période Covid, et finalement retrouver et dépasser les meilleurs statuts possibles.
En fait, on a travaillé pas mal sur la période Covid, et se dire est-ce qu'on se servirait pas de ce moment Covid pour en fait s'en servir presque comme une opportunité. C'est vrai que c'était un moment qui était désagréable, mais est-ce que tout ce temps-là qui pouvait sembler perdu, est-ce que ce serait pas le moment en fait pour retravailler le projet, retrouver une dynamique. Donc sur ces 2 ans là, on a travaillé sur des espaces autour des matchs, notamment avec une billetterie à l'entrée professionnelle, avec du scan, avec de la billetterie en ligne. On a créé un espace partenaire qui accueille entre 60 et 90 personnes soir de match, que des partenaires privés ou institutionnels. Donc c'est une vraie fierté. Et on a créé aussi pour notre public un espace extérieur bodega avec un food truck, une buvette, des animations pendant le match avec des fois des danseuses, des associations d'Angoulême qui viennent danser sur les temps morts et les mi-temps. Et donc, ben, le résultat, c'est un record de licenciés. C'est une image qui est au beau fixe. C'est du partenariat privé qui ne cesse d'augmenter. C'est du, voilà, c'est un soutien total dans tous les plans et des résultats sportifs qui collent aussi en même temps à tout ça. Donc, ben, ça fait plaisir. Le département était là au dernier match pour venir voir aussi le travail qu'on fait dans une zone rurale, parce que faire ça en ville, c'est bien. Faire ça dans une zone comme La Roche ou Coué-Chasseneuil, ça reste des zones rurales et on nous permet de travailler, de faire tout ça aussi grâce à tous ces partenaires-là et ces bénévoles, parce que ben, c'est aussi beaucoup de bénévoles sort de match. C'est entre 30 et 40 bénévoles sort de match mobilisés. Et je pense que s'ils n'étaient pas là au quotidien et les sort de match pour mettre tout ça en place, parce qu'une billetterie, un espace VIP et une bodega, ben, ça demande du monde, ça demande du travail en amont, ça demande de l'organisation, des réunions pour planifier que... En fait, pour le spectateur, ça soit un vrai moment de fête. Le spectateur arrive, a l'impression de vraiment voir un show. On a travaillé sur la bière Jugina. Il peut aller consommer de la nourriture chaude. Il peut prendre une boisson qui est fraîche. Il voit des shows sur les temps d'arrêt de match. Il y a de la musique, il y a des danseuses. Il se passe quelque chose. Et il repart, j'espère, en tout cas, en plus du match, avec le sourire, le sentiment de pas avoir perdu une minute du spectacle.
Moi, je regarde de temps en temps les vidéos. Oui, c'est vrai que ça donne envie d'aller à La Rochefoucauld, où je suis impressionné, c'est au niveau des partenaires, plus de 60 partenaires. Moi, je dis la communication, bravo.
Ouais, non, mais c'est vrai que les soirs de match, enfin, on a plus de 60 partenaires qui sont présents et on a fait des soirées à plus de 100, hein, pour rien vous cacher. Alors, ça reste d'ordre exceptionnel, hein, mais pour nous, c'est une vraie fierté. Il y a deux ans, il n'y avait pas tout ça, en fait. C'est-à-dire que tout ça, et il y a deux ans, on est au mois d'avril, donc en septembre d'il y a un an et demi, en fait, il n'y avait rien, il y avait des choses qui étaient mises en place, mais là, on a vraiment passé un cap, on est dans un autre monde et on reste en cohérence avec le projet qui est annoncé. C'est aussi un moment aller en National 1 et donc en fait on est dans les standards de la National 1, voire de la National 1 presque élite dans ce qu'on peut proposer comme structuration actuellement.
Il expliquait que ces rencontres de sport sont des prétextes à avoir une vie sociale très imprimée.
Ouais, alors je pense que pas manquer de respect à ce qui se fait à Cognac, hein, mais je pense qu'on propose quand même quelque chose d'encore plus avancé, encore plus structuré et plus professionnel de ce qui peut être à Cognac. Mais c'est vrai que leur outil à eux, nous, l'objectif, ce serait aussi d'avoir un outil qui nous permette de travailler encore plus. Hein, l'outil de Cognac est magnifique. Ils ont un gymnase qui est super. Moi, Richard, j'avais été en contact avec lui il y a 4 ans. Une personne avec qui on a pas mal échangé. Voilà, moi, je pense que de toute façon, il faut aller dans ce sens-là. C'est vrai qu'on est limité, nous, actuellement, par l'outil. On a un gymnase qui est presque trop petit pour accueillir tout ce qu'on veut proposer. Le public est presque trop nombreux pour notre gymnase. Donc, malheureusement, on travaille avec ce qu'on a actuellement. Mais c'est sûr que si on avait un outil un peu plus adapté, on pourrait faire encore quelque chose d'un peu plus, j'allais dire fou, mais exceptionnel, en tout cas, dans ce territoire rural charentais.
Ben, c'est quasiment l'aspect le plus limitatif, quoi, puisque l'outil, il peut pas changer comme ça du jour au lendemain.
Et non, malheureusement, après, nous, on n'a plus la main sur tout ça. Hein, ça reste plutôt d'ordre, j'allais dire, politique. Mais aussi, on connaît les difficultés aussi pour les municipalités actuellement avec le coût des énergies qui augmente aussi.
La sobriété.
Et ils peuvent pas non plus faire n'importe quoi sans regarder. Mais en tout cas, c'est sûr que si à un moment on pouvait avoir l'opportunité d'avoir un outil plus adapté, je pense qu'on serait en capacité de répondre et de proposer quelque chose demain, de construire et adapter un outil plus puissant. C'est sûr.
Alors, Rochefoucauld, c'est vraiment un spectacle. C'est, voilà, le public peut s'y rendre tranquille, ils sont pas agressés, ils participent, ils chantent. Moi, j'ai vu des vidéos, hein, je regarde les vidéos. C'est vrai que c'est un spectacle, c'est ce qu'on fait de mieux dans le département de la Charente.
Hein. On a essayé de travailler avec la municipalité de La Rochefoucauld sur, ils nous ont mis une nouvelle sono en place. Nous, on essaie de mettre du coup des jeunes qui viennent travailler sur la musique, sur l'animation des temps morts. Dès que je vous ai dit, il y a des clubs de danse d'Angoulême qui viennent danser sur les temps morts. Là, sur le dernier match, on essaye d'animer, en fait, de dire comment on peut faire vivre aussi aux gens quelque chose d'un peu spécial. On va faire venir un groupe de musique de 18h30 à 20h30 pendant 2 heures qui vont jouer en extérieur en espérant qu'il fasse beau avant le match. Et après, il y aura le match à 20h30 et derrière, on va faire encore une animation après le match avec sûrement un DJ ou quelque chose comme ça pour que en fait, ça soit un vrai moment de fête ce dernier match et qu'on se souhaite presque bonnes vacances et qu'on se retrouve en août ou en septembre prochain. Alors moi, je serai pas là, mais que le club va continuer à vivre, à avancer et donc dire un vrai au revoir, laisser une marque à tout le monde et dire attention, l'année prochaine, on va revenir encore plus fort et que chaque événement qu'on propose comme ça, ça soit de vrais signes de la puissance du club et de son avancée.
Bon départ pour Toulon, c'est au mois de juillet, c'est...
Ouais, je suis en fin de contrat au mois de juin. Et du coup, bah, j'ai quelques petites vacances qui se feront dans cette période-là. La transition va se faire aussi petit à petit. On est déjà en grosse discussion sur toute la partie transition pour préparer la saison d'après. Et puis, vu comment les relations sont bonnes, il n'y aura pas de soucis. S'il y a un coup de téléphone à passer, voilà, on pourra échanger.
Vous écoutez Attitude 98.3, 90.7, www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. C'est Culture Sport, votre émission, chaque lundi, 19h, 20h30. Nous accueillons aujourd'hui Rémi Faugère, le coach de Tech, qui va répondre aux questions de Dédé.
J'avais analysé un petit peu avant l'émission, notamment les trois matchs là qui vous restent à jouer. Ça peut être évidemment 3 succès, c'est ce que je souhaite là, 3 ou 4 succès. Et quant aux leaders, je ne sais pas où ils vont jouer les leaders. Est-ce que ces leaders-là sont solides pour notamment ces 4 derniers matchs?
Oui, je pense qu'ils jouent notamment là les derniers. Ils jouent les derniers la prochaine journée. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais ils jouent Bougné qui est milieu de tableau, qui est 8e. Je regarde.
C'est ça. C'est ça. Beauvais 8e.
Et joue Saint-Nazaire qui est plutôt une équipe de bas de tableau, en difficulté actuellement. Et les Girondins qui sont 10e. Ils jouent le 12e. Le 10e, le 8e, le 9e. Ouais, voilà, pour vous donner un petit peu les espoirs sont faibles. Par contre, la deuxième phase, c'est quand même important de regarder. On garde dans la tête qu'il y a quand même des, malheureusement, dans le handball actuellement, quelques difficultés sur les clubs professionnels. Il y a quand même 2 clubs féminins qui ont déposé le bilan cette année et 2 clubs masculins qui sont en grande difficulté. Voilà, on va pas leur souhaiter de malheur, mais en tout cas, nous, à défaut d'avoir sportivement réussi à faire quelque chose, il faut qu'on conserve pour l'histoire, pour le projet, cette deuxième place et peut-être une possibilité de monter administrativement si jamais il devait venir avoir des difficultés.
Oui, l'ETEC a quand même 5 points d'avance sur son premier poursuivant.
Et en sachant que quand on perd, on prend quand même 1 point, voilà, il faudrait que on gagne à son la prochaine journée, qu'on gagne notre prochain match, qu'on gagne à son et normalement on devrait aller au bout sur cette deuxième place.
Est-ce que cette saison, Rémi, elle est conforme à tes espoirs? Est-ce que ça, à quel niveau tu places le curseur là-dessus?
On avait une équipe où beaucoup nous annonçaient presque relégables ou mourants avec tous ces cadres qui partaient à la fin de la saison, que ces jeunes n'arriveraient peut-être pas à se maintenir cette saison. On voit que les jeunes charentais ont du caractère et ont la capacité de produire du handball et d'être performants. Donc, plutôt satisfait. Hein. On aurait été 4-5e à la même période. Au mois d'août, on aurait dit bah, c'est pas mal, 4-5e avec ce groupe-là. Au final, on est 2e et on l'a volé à personne hein, parce qu'on s'est battu sur tous les matchs. On a montré du caractère, une âme. Et c'est aussi ça qui fait des fois gagner les matchs et venir au bout de certains matchs à la dernière seconde, marquer le dernier but au buzzer parce qu'il y a un supplément d'âme, parce que le vestiaire vit bien, parce que ces jeunes ont aussi des identités, des valeurs communes pour venir se dépasser jusqu'à la dernière seconde l'un pour l'autre.
Rémi, une question de plus générale. Qu'est-ce que tu auras appris durant ton passage à l'ETEC en Charente?
J'aurais appris, je pense, beaucoup de choses dans les, des joueurs qui étaient expérimentés, donc toujours dans les échanges, on apprend toujours, mais je pense dans la capacité d'échanger, de construire des projets, de s'appuyer aussi sur la connaissance locale. Je pense que c'est des choses qui sont hyper importantes, de s'appuyer sur les valeurs des locaux, des personnes qui sont là dans l'histoire du club, mais en même temps sans jamais changer de cap. C'est vrai que c'est un discours qu'on a souvent avec le président, c'est garder le cap de là où on veut aller, sans non plus oublier les valeurs humaines et qui sont, je pense, des valeurs fortes pour le club, ce club-là.
Ouais, parce que c'était ton premier passage, on va dire, des clubs à forte connotation rurale, peut-être, non?
Ouais, parce que Aix-en-Provence, même si c'était plutôt c'est populaire, ville, hein, c'est quand même une grosse ville, et du moins entourée de très gros, de grosses villes. Frontignan, c'est collé à l'agglomération de Montpellier. Voilà, Redon et Carmo, c'est deux petites villes, mais sur des projets, en tout cas, où moi, j'ai un poste à responsabilité, c'est sûr que c'était plutôt une zone rurale, mais moi, c'est des valeurs qui me plaisent, parce que c'est de là où je viens aussi. Hein. Donc, pouvoir être à la proximité des bénévoles, des dirigeants et tout, pouvoir échanger sur tous les sujets, ça, c'est, je pense que c'est aussi important, parce que c'est eux qui portent le projet. Moi, je suis de passage dans ce projet-là. Dans 3 mois, je suis plus là. Et si tout ce que je mets en place est en dehors de leur valeur personnelle, eh ben, ce que j'ai mis en place, je vais le faire contre leur volonté. Moi, je vais avancer moins vite. Et eux vont déconstruire une fois parti tout ce que j'ai fait. Alors que là, c'est plutôt des choses qui sont construites en commun avec les mêmes valeurs. Et du coup, ça amène aussi une certaine stabilité et durabilité dans le projet.
Je suis impressionné sur cet entretien de ce soir, sur notamment les 30 ans, la jeunesse. Ouais, tu as déjà 30 ans, quand on voit, à 30 ans, je me comprends même avant, hein, parce que vous avez des quatchs avant. Mais je suis vraiment, cet entretien, je vais garder beaucoup de choses parce que à 30 ans déjà d'être coach en National 2, je dis bravo. Hein. Vous avez cet esprit d'équipe, de convivialité. Et je pense que je l'ai ressenti à travers cet entretien. Donc
ouais, ben c'est pas, après c'est pas facile, j'allais dire tous les jours. On n'est pas là pour se faire plaindre, hein, mais plutôt de dire on reste un jeune entraîneur, ou alors il faut du coup poser aussi des cadres et des limites par rapport à cet âge-là, mais aussi on fait des erreurs de jeunes. Moi, je pense que j'aurais appris aussi tout ça sur la gestion, parce que peut-être que la nervosité, le calme ou le manque d'expérience, il a pu aussi peut-être jouer sur certains matchs, parce que peut-être un peu plus nerveux, ou j'allais dire électrique dans ma façon de réagir, que peut-être un entraîneur qui aurait 10 ans ou 15 ans de plus, hein, ce qui est quand même le cas plutôt régulièrement, hein. J'ai plutôt des entraîneurs qui se rapprochent d'une quarantaine d'années que d'une trentaine d'années, même s'il y a des jeunes entraîneurs, et donc il y a aussi à apprendre sur ça, sur la capacité à amener de la sérénité, du calme. Mais ça fait aussi peut-être des fois la magie aussi de ces jeunes entraîneurs qui ont peut-être un peu plus de folie et qui amènent un supplément d'âme sur aussi d'autres moments, voilà. Mais ça fait, c'est un équilibre.
C'est bien, Rémi, parce qu'en plus de ça, vous avez cette formation de jeunes, et ça c'est très intéressant.
Ouais, mais il faut garder, je pense, et même là sur mon prochain projet, c'est en fait il faut s'appuyer sur ce qui se fait localement, et je pense que ici aussi à l'ETHEC, tout le monde est conscient que tout ne s'est pas fait à La Rochefoucauld et à Chasteuil. Il y a des clubs sur le territoire charentais qui travaillent très bien et qui ont l'intelligence aussi de dire à leurs jeunes à un moment, rapprochez-vous de l'ETHEC, parce que eux, ils peuvent peut-être vous amener un petit peu plus haut. Ruel par exemple, avec qui on travaille pas mal, est en capacité de faire ça, et nous à un moment on libère aussi nos jeunes pour pouvoir aller vers des centres de formation. On a 2 jeunes qui sont pour les sports là, qui sont déjà en discussion pour des centres de formation dans un an et demi, donc c'est aussi la capacité de dire on forme, les clubs travaillent pour nous et nous on travaille pour les clubs de haut niveau. Et ces jeunes-là passent par chez nous. Et on a là Servien Clair qui est au centre de formation de Toulouse. On a Sacha Mantz qui est au centre de formation de Chambéry, donc dans des structures de clubs de haut niveau. Et on a sûrement 2 jeunes qui sont actuellement chez nous en moins de 17 qui seront d'ici un an et demi, dans des structures encore de haut niveau. Et c'est une fierté pour les techs, mais c'est une fierté pour le handball charentais, j'espère.
Ta carrière de joueur, elle s'est dessinée comment?
Eh bien moi, j'ai été joueur au niveau plus haut niveau régional. J'ai joué plusieurs fois l'accession en niveau national qui n'a pas marché. Et en fait, après mon passage en Bretagne, où j'étais encore joueur, j'ai eu la possibilité de faire les deux. Mon arrivée sur le club de Frontignan a été orientée très vite sur l'entraînement d'équipes adultes, en même temps que des jeunes, hein, je faisais les deux. Mais j'ai dû entraîner des adultes, et j'avais 23 ou 24 ans, si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'ai dû commencer un petit peu à faire un choix dans mon positionnement, et me dire qu'à un moment, si je voulais entraîner des adultes et garder une certaine distance avec mon jeune âge entre le joueur et l'entraîneur, je pouvais pas moi me retrouver dans une situation de joueur limitée par moi aussi des erreurs de joueur, je suis pas parfait. Donc moi aussi je fais des erreurs quand j'étais joueur sur le terrain, je tirais à côté du but, je faisais des arrêts gardiens, je perdais des duels en défense, et donc je pouvais pas me retrouver régulièrement dans des situations comme ça si moi je voulais être légitime dans l'encadrement global sportif. Donc je me suis retiré tout doucement de ce côté joueur et orienté plus fortement sur cette partie entraîneur, où j'ai passé du temps et du temps et du temps forcément à moi entraîner, mais aussi côtoyer des entraîneurs plus expérimentés dans ce club, notamment de Frontignan.
Quelle place vous occupiez sur le terrain?
J'étais ailier.
Rémi, nous arrivons au terme de cet entretien. Ça fait bientôt une heure. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée ou est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel tu souhaiterais revenir un instant?
Non, non. Moi, je pense que voilà. J'espère que le club va continuer à grandir. J'espère qu'il va continuer à avoir la notoriété qui mérite sur la Charente et même plus loin. Et voilà, je pense que ce club-là est prêt à porter des projets grands, des projets fous. Moi, je pense qu'un jour, ce club-là contrôlera la N1 et sûrement même l'excellence du handball français sur peut-être de la N1 élite et voir peut-être un jour plus grand. Et je pense que c'est une fierté. Moi, j'invite tout le monde, que ce soit un lambda sportif ou des élus ou n'importe, de venir voir ce qui se passe dans le gymnase, des passionnés de sport. Si on est passionné de sport, normalement, on va se retrouver dans les valeurs de... Il y a le match samedi 22 contre Bègles et sinon il restera un match le 20 mai à domicile. Moi je vous invite à venir voir ce qui se passe parce que je pense qu'il y a quelque chose et c'est avec plaisir de vous recevoir à toute l'équipe de Radio Attitude sur un de ces deux matchs là ou même les deux si vous voulez, mais aussi tous les fans de sport et tous les gens qu'on a rendu curieux ce soir de voir ce qui se passait à La Rochefoucauld Chasse-Neuil sur ce projet de l'été.
Voilà. Parfait Rémi, merci, on te souhaite le meilleur, donc le meilleur pour cette fin de saison et les bons vents pour la suite de ta carrière. C'est quelqu'un qu'on n'oubliera pas, hein, parce que c'est, on a la chance de pouvoir être mis en lien avec des sportifs et il y a dedans, donc il y a des rencontres qui nous sont imprégnées beaucoup plus que d'autres. Tu fais partie de celles-là, donc c'est avec plaisir qu'on t'a accueilli.
Merci beaucoup.
Et on te souhaite bon vent pour la suite, Rémi.
Merci beaucoup.
Bon vent, et au revoir.
Il n'y a pas de souci, je resterai s'il y a besoin un interlocuteur pour une émission, même tout le mai.
C'est bien, c'est très gentil.
C'est très gentil.
Bonne soirée.